Pierre-Franck Chevet, président de l'autorité de sûreté nucléaire, gendarme du nucléaire, est notre invité ce matin pour évoquer, comme on l'a fait dans une première partie, le vieillissement de notre parc nucléaire, la chaîne de contrôle de sûreté. Mais jusqu'à 8h30, je voudrais qu'on essaye de saisir au moins un peu des enjeux qu'il y a autour de votre mission. Pierre-Franck Chevet, les enjeux du nucléaire sont considérables, ils sont financiers, ils sont énergétiques, ils sont aussi sociaux parce que des milliers de personnes travaillent dans ce secteur. Vous, vous êtes indépendant, comme on l'a dit. Votre rôle de contrôle est évidemment essentiel. Vous êtes là pour lever des lièvres, poser des questions, pointer des irrégularités. Mais vous n'avez pas le pouvoir d'aller jusqu'au bout, en quelque sorte.
Si, si, si.
Vous ne pouvez pas demander l'arrêt total et définitif d'une centrale.
Si, si, si. On peut le faire. On le fait chaque fois que c'est nécessaire. Ça n'est pas tout le temps, heureusement. On l'a fait en fin d'année dernière. Je l'ai cité tout à l'heure, mais sur Tricastin, où il y a 4 réacteurs nucléaires, c'est au droit d'une digue sur un canal, un canal qui est un peu surélevé par rapport à la centrale. On a estimé que cette digue ne tenait pas au séisme, en tout cas celui qui était pris en compte en dimensionnement. Et on a été amené à arrêter la centrale, les 4 réacteurs en l'occurrence, pendant à peu près 2 mois, le temps que les travaux de confortement de la digue soient faits. On a ce pouvoir-là, on l'a en propre, sans rien demander à personne. Donc effectivement, poser des questions, bien entendu, mais aussi prendre des décisions. Et des décisions qui peuvent être négatives, enfin un arrêt par exemple, typiquement, des sanctions aussi, mais aussi des décisions positives, comme on fait. C'est notre rôle.
Mais par exemple, après Fukushima, vous parlez de digues. Après Fukushima, vous avez demandé à EDF qu'elle fasse des études sur ces centrales en France. Et plus spécifiquement, vous avez demandé une étude sur les conséquences d'une éventuelle rupture de la digue du Grand Canal d'Alsace à Fessenheim. Réponse d'EDF, une rupture de la digue est impossible. Et c'est tout, fin de l'histoire. Vous êtes obligé de vous contenter de cette réponse-là?
Ah ben, non. Enfin, d'abord, il faut qu'ils répondent, puisque c'est la demande qu'on a formulée. Ils ont répondu, en l'occurrence, là, on parle non pas de Tricastin, mais Fessenheim. Et les études qu'ils ont apportées, les mesures qu'ils ont faites, apportent une démonstration, effectivement, de la tenue de ce grand canal. Donc, qui nous voit, que nous avons approuvé. En l'occurrence, pour Fessenheim. Pour Tricastin, ce n'était pas le cas. Donc la réponse a été différente, évidemment.
Alors je prends un autre exemple, et puis après on passera à autre chose, mais vous avez il y a quelque temps relevé de gros problèmes sur les 2 calottes de l'EPR. Donc les calottes, ce sont les couvercles inférieurs et supérieurs du réacteur. Et vous dites, attention, ces calottes ont été fabriquées hors des standards. Et au lieu de dire à EDF, vous me recommencez tout ça et on n'en parle plus, vous devez leur dire, parce que c'est dans votre mission et c'est dans le protocole finalement, attention, ces calottes ont été fabriquées hors des standards, prouvez-moi que malgré leurs défauts, elles sont quand même bonnes. Oui. C'est ça la démonstration que vous avez demandé à EDF.
On demande une démonstration de sûreté. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut qu'on soit convaincu, que les critères de sûreté sont remplis. C'est ça qu'on a demandé sur la CUV. Au début, d'ailleurs, la première réaction, c'était de dire « c'est même pas une anomalie, le problème de la CUV de l'EPR de Flamanville ». Moi, je l'avais qualifié dès le début d'anomalie sérieuse, ce qui était le cas. Effectivement, ce qu'on a observé était du domaine des anomalies un peu hors normes. Il y a eu 2 ans de travail, plusieurs milliers d'essais qui ont été nécessaires pour arriver à porter la démonstration physiquement que cette cuve était apte au service. Et d'ailleurs, la décision que nous avons prise à la fin, c'était que la cuve elle-même était apte au service. Par contre, le couvercle de cette cuve, un couvercle au-dessus de la cuve, qui la ferme donc, lui devait être changé à moyen terme, et on a fixé un horizon de temps clair qui s'impose à EDF, qui est 2024. Et avant 2024, ce couvercle doit être changé. Voilà, c'est typiquement le genre de décision qu'on prend. Alors, elles sont souvent critiquées. Hein. EDF n'a pas aimé, par exemple, qu'on leur demande de changer le couvercle. Mais par contre, les antinucléaires ont plutôt pas aimé qu'on autorise le fond.
Mais
c'est juste notre rôle.
Et puis c'est une question aussi, là encore, d'enjeu, mais l'EPR, le retard est considérable. EDF vient d'annoncer un nouveau retard dans le chantier. Il en va aussi de l'image de la France. Donc vous sentez quand même le poids de cette pression-là sur vos épaules?
Je vais dans votre sens. La plupart des décisions que nous prenons, enfin dans le champ du nucléaire, c'est des décisions qui se comptent, qui ont des impacts sur des milliards d'euros. Très bien. C'est le champ économique. Il y a des impacts sociaux aussi. Hein. Quand on arrête des choses, il y a aussi des impacts sociaux, etc.
La pression
ou le poids des décisions, il n'est pas là pour moi. Le poids des décisions, je le répète, notre mission, c'est de protéger les personnes et l'environnement.
Les décisions sont le fait des politiques.
Non, pardon. L'édition que je prends sont mon fait, et elle est ma seule mission. Et elle est effectivement lourde, hein, lourde de responsabilité, c'est de protéger les personnes. Quand je pense à la cuve, moi je ne pense pas à combien ça va coûter, à la cuve de l'EPR de Flamanville que vous venez de citer. Moi je pense, est-ce que cette cuve sera sûre et sûre dans la durée, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Et c'est ça, effectivement, s'il y a un poids, et que j'assume, un poids de responsabilité, c'est celui-là.
Et donc, vous êtes à l'origine du fait que sur les 12 dernières années, par exemple, la centrale de Fessenheim a été arrêtée plus de 30,6% du temps. Est-ce qu'on connaît un seul industriel français qui pourrait survivre si son entreprise était à l'arrêt 30,6% du temps ?
Ce n'est pas un chiffre qui me surprend énormément. Je crois que la disponibilité, les centrales en général, pas que Fessenheim, je vois qu'il y a un focus Fessenheim, que je peux comprendre, il y a plein de raisons pour ça. Mais les centrales nucléaires en France ont ce qu'on appelle un taux de disponibilité de l'ordre de 75-80%. Et notamment parce que régulièrement, il faut s'arrêter, les centrales doivent s'arrêter pour faire de la maintenance et pour recharger le combustible nucléaire. Et rien que ça, c'est des arrêts qui peuvent durer 2 mois par an. Donc vous retrouvez des chiffres pour un peu qu'il y a une anomalie en plus. Voilà, c'est tout à fait... Donc, et encore une fois, le sujet de la disponibilité des centrales n'est pas mon sujet. Vous m'interrogez sur le champ économique. Moi, mon sujet, c'est que ça marche en sûreté.
Alors, un sujet qui n'est pas le vôtre, mais qui pourrait le devenir, c'est la question de la sécurité nucléaire. Et Barbara Pompili, députée La République En Marche, ex-écologiste, a déploré récemment dans cette commission d'enquête parlementaire que vous ne vous occupiez pas, parce que ce n'est pas dans vos missions, de sécurité nucléaire. Est-ce qu'à l'avenir, vous en avez les compétences, les moyens humains pour le faire ? Donc, sécurité nucléaire, c'est ce qui concernerait la menace d'attentat, menace terroriste.
D'abord, c'est un sujet essentiel. Alors, par les temps qui courent notamment, je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais c'est un sujet évidemment essentiel. Peut-être une remarque. La commission a dit 2 choses. Elle s'est d'abord étonnée qu'on ne lui dise pas toutes les choses à savoir sur les enjeux de sécurité. Qu'est-ce que l'on fait pour prévenir ou pour lutter contre des actes de malveillance ? Et effectivement, les services de l'État, le gouvernement... a fait des réponses relativement allusives, parce que sur ces sujets-là, en matière de sécurité, si vous commencez à expliquer comment vous allez défendre une installation, ou quels sont les points faibles d'une installation, vous donnez des pistes à ceux qui veulent réaliser un acte de malveillance. Et donc, nécessairement, il y a une partie qui est protégée par le secret défense. Alors, la commission s'en est émue. Moi, ce que j'ai proposé, parce que c'est un sujet, dire aux gens, écoutez, faites-moi confiance, on vous dit rien, mais on fait tout ce qui est nécessaire. Il y a juste un vrai sujet. Moi, j'ai proposé, et ça a été repris d'ailleurs par la commission, qu'il y ait une formation habilitée du Parlement, qui puisse entendre, challenger les services de l'État en charge, etc., de manière à, et se porter tiers de confiance vis-à-vis du public sur ces sujets-là. Je rappelle que moi, en tant qu'autorité de sûreté, je rends compte au Parlement. Et ça fait partie du contrôle. Tout à l'heure, on parlait de Lactalis, qui contrôle le contrôleur. Moi, j'estime que le Parlement a ce rôle-là pour ce qui me concerne, le public aussi a ce rôle-là pour ce qui me concerne. Et pour les sujets de sécurité, il faut qu'on ait quelque chose d'approchant. Et je pense qu'une commission ad hoc parlementaire avec des gens habilités serait, à mon avis, la bonne méthode. C'est repris dans le rapport. En ce qui concerne l'organisation de l'État, dans la plupart des autres pays, mais même dans la quasi-totalité des autres pays qui ont du nucléaire, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui est en charge de ces sujets-là. Alors, c'est pas elle, à l'étranger, qui intervient manu militari en cas d'agression, mais c'est elle qui regarde comment on dimensionne l'installation pour faire face à des actes de malveillance. C'est elle qui regarde comment l'exploitant s'organise pour avoir, avec ses forces propres, pouvoir retarder les agressions, etc. Partout, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui fait. En France, on a un schéma un peu différent. Il y a des services de l'État au ministère de l'écologie qui sont en charge. Je conteste nullement le fait qu'ils fassent bien leur boulot, c'est pas du tout le sujet. Je constate simplement que l'organisation est différente dans les autres pays, pour une raison assez simple. Une installation qui est robuste, elle est robuste par rapport à des agresseurs malveillants, mais ça veut dire qu'elle est aussi robuste, et pour les mêmes raisons techniques, vis-à-vis d'agresseurs, entre guillemets, naturels. Donc les deux questions sont intimement liés, renvoient au fait d'avoir des installations globalement robustes.
Alors, on peut aussi comprendre que ces députés et sénateurs se soient émus de ne pas avoir accès à certaines informations classées secret défense, parce que d'un côté, on parle d'informations secret défense, et puis de l'autre, on voit par exemple dans ce documentaire de Yannick Rousselet de Greenpeace, Le Grand Mensonge, on voyait clairement que les convois chargés de matières nucléaires qui font l'aller-retour entre l'usine de La Hague dans le Cotentin et celle de Marcoule dans le Gard le font au vu et au su de tout le monde. En tout cas, ils sont très faciles à surveiller et surtout, les horaires de ces transports sont réglés comme du papier à musique, ce qui est quand même pas très intelligent. Et les ingénieurs que vous côtoyez, vous travaillez avec des ingénieurs sur les questions de sûreté, ils doivent être édifiés de ce qui se passe, qui ne relève pas de leurs compétences à eux, mais qui leur échappe complètement, la question de la sécurité des centrales.
Je répète, ce sujet-là n'est pas un sujet orphelin. C'est-à-dire qu'il y a des services de l'État. Alors, il se trouve que ce n'est pas l'autorité de sûreté
nucléaire. C'est le ministère de la Défense.
C'est le ministère de l'Écologie qui a des services spécialisés. Et évidemment, le ministère de l'Intérieur. Quand on parle des forces d'intervention, pour le coup, c'est le ministère de l'Intérieur, voire le ministère de la Défense pour certains types d'intervention. Donc, c'est pas un sujet orphelin. Donc, c'est pas, encore une fois, il y a des services de l'État qui le traitent.
Mais vous
c'est un sujet d'organisation de l'État. Et je pense qu'à terme, cette réforme-là est globalement inéluctable. C'est ce que j'ai dit devant le Parlement. Elle n'est pas urgente, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui s'en occupent. Mais le fait de traiter ensemble, avec des regards en tout cas proches, ces deux sujets-là, c'est fait partout ailleurs dans le monde.
Alors, vous rappeliez tout à l'heure, Pierre-Franck Chevet, les échelles du temps nucléaire, échelles inédites que les autres industries n'ont pas aujourd'hui à gérer. On parle en milliers d'années, voire millions. Est-ce qu'on maîtrise bien aujourd'hui la mémoire du nucléaire? La construction de Fessenheim, pour reprendre cet exemple, puisque c'est la plus vieille de France, a été décidée dans les années 60 par des gens qui ne sont plus là, des entreprises qui ont changé d'actionnaire ou de métier, des politiques qui ne sont plus élus. Est-ce que la mémoire du nucléaire est transmise et comment?
Alors, elle est à la fois transmise, il y a tout un tas d'obligations évidemment dans ce domaine, de conserver tout un tas de documents. N'empêche qu'il y a quand même des pertes de mémoire ou de savoir-faire. Un des enjeux auxquels est confrontée actuellement l'industrie nucléaire en France, c'est le fait que comme on a construit le parc industriel nucléaire à très haute dose dans les années 80, et que depuis on n'a plus construit, c'est qu'on a perdu alors non pas les compétences, parce que les compétences ça renvoie à un sujet humain, mais perdu tout simplement le savoir-faire. Et le savoir-faire, par définition, vous parliez de mémoire, le savoir-faire, il faut faire pour savoir, le jour venu, refaire. Et actuellement, tous les grands chantiers d'installations nouvelles en France, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même quelques-uns, ont des difficultés, des retards, des difficultés, des anomalies, on citait la cuve de Lepère. Et pour large part, ces difficultés sont liés au fait que pendant 20 ans, en gros, on n'a pas fait. On n'a pas fait des bétons compliqués, on n'a pas fait des soudures compliquées, etc. Donc ce genre d'enjeu est un vrai enjeu pour la filière nucléaire, pour d'autres filières aussi, mais actuellement pour la filière nucléaire.
Donc on n'a pas d'autre choix que de débattre, de continuer à débattre, d'invoquer le débat public en intégrant nos marges d'ignorance qui existent encore.
Absolument. Et le débat public fait partie du contrôle.
Le débat public fait partie du contrôle.
Du contrôle par les citoyens qui posent des questions. Certaines sont, on va dire, plutôt décalées. D'autres sont parfaitement dans la cible. Et ça fait partie du fonctionnement du système et de la sûreté.
Et donc, il faut l'intégrer. Merci beaucoup, Pierre-Franck Chevet, président de l'autorité de sûreté nucléaire, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.